Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Pince-Crâne, votre podcast autour de Magic et du Commander. Je vous rappelle que vous pouvez suivre l'émission sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Podcast Addict, Google Podcasts, mais aussi et surtout sur YouTube, où on essaye d'y faire un peu de contenu exclusif. Si vous avez des questions ou voulez échanger avec nous, n'hésitez pas à passer sur le Discord de Magic C'est Chic, on y est actif. Alors, sans plus attendre, nom d'étape, c'est permanent, on pioche, c'est parti. Eh bien, bonjour et re-bienvenue dans cet épisode du Pince-Crâne, où nous allons discuter, ou plutôt mettre en opposition, le Card Quality et la Synergie. Bon, et je suis pas tout seul, je suis avec Riwan, aka Passion Carton, je peux t'appeler comme ça ?
Ouais, Passion Carton, c'est le nom de ma chaîne YouTube. Moi, sur Internet, c'est Wanry, c'est mon nom en verlan, puisque sur ma chaîne, il y a aussi Nico, que t'as déjà reçu sur ce podcast.
Yes, carrément, Nico, qui a monté le blog No Face Mana, auquel tu participes aussi d'ailleurs ?
Ouais, tout à fait. Échange de bons procédés. J'écris sur son site. Il m'aide à écrire et à réaliser quelques-unes de mes vidéos.
Yes. Moi aussi, je fais beaucoup ça avec mes potes. Je leur demande beaucoup aussi des retours, des machins, de compléter un peu mon point de vue. Ça m'arrive souvent.
Bah, il s'avère que Nico et moi, on était en école de journalisme ensemble. On a fait une formation ensemble. Donc, on a appris déjà à travailler en duo de cette manière-là. Donc, ça marche bien entre nous pour ça.
Ben nickel, parce que j'allais te demander justement de te présenter, nous parler de ton rapport à Magic et aussi pourquoi pas de ton rapport au Commander.
Moi toute ma jeunesse j'étais à fond dans Yu-Gi-Oh! Et vers 15-16 ans j'ai redécouvert Magic que j'avais pratiqué très brièvement dans mon adolescence. Et depuis j'ai remis tous mes potes à Magic, on a complètement abandonné Yu-Gi-Oh! Donc là j'ai 30 ans, donc ça fait une petite quinzaine d'années que je suis à fond dans Magic. Et j'ai découvert le Commander je pense... vers les années 2015, quelque chose comme ça, et on a complètement redécouvert le jeu, et vraiment ça a été un vent de fraîcheur, parce qu'on jouait beaucoup à 60 cartes, mais on jouait quand même à 4 ou 5, et c'était un peu chaotique, parce qu'on était souvent un bon groupe de potes, donc vraiment ça nous a fait redécouvrir la profondeur du jeu, tout simplement. Et quand j'ai rencontré Nico, je lui ai fait découvrir Magic, je lui ai fait découvrir le Commander, alors qu'il avait appris sur Arena, pareil, ça lui a explosé l'esprit, comme disent les Américains. Et étant tous les deux journalistes, on s'est dit qu'on aimerait bien produire du contenu sur Magic d'une manière ou d'une autre, sur le Commander en tout cas. Et ça a mis du temps, et puis finalement on s'est lancé. Donc la première vidéo sur Passion Carton a été publiée il y a 7 mois. Et depuis c'est un kiff et les gens adhèrent, enfin ont l'air d'adhérer en tout cas, la communauté est super sympa. Donc voilà.
J'imagine et j'espère que les auditeurs ont eu l'occasion de croiser ta chaîne, notamment en format short, où t'es hyper actif. D'ailleurs, t'es aussi sur TikTok et ces trucs-là.
Ouais, en fait, je me suis rendu compte en faisant mon premier short, un format auquel j'avais pas du tout pensé. Enfin, j'étais vraiment parti sur du long format avec Nico. Puis un jour, j'ai réalisé un short sur une carte et je me suis rendu compte que c'était super facile et que ça me prenait quelques minutes. Et du coup, je me suis décidé à en faire plus. Et en fait, il y a quelques youtubeurs américains, genre les Nitpicking Nerds par exemple, je sais pas si tu connais, personnellement je suis pas très fan, mais eux, ils font du contenu quotidien, et je me suis rendu compte que c'était possible de faire du contenu quotidien, et je me suis rendu compte aussi que ça ramenait pas mal d'abonnés, d'abord sur TikTok, ça a bien marché sur TikTok au début, maintenant c'est plutôt sur YouTube, et tous les jours ça me ramène une poignée d'abonnés tout simplement. Alors au début ça me prenait quelques minutes de faire un short, et en fait avec le temps j'y ai pris goût. Donc j'ai décidé de rajouter des sous-titres, de la musique, des effets, des animations, des trucs comme ça. Et aujourd'hui, ça me prend plus du tout quelques minutes, ça me prend une heure tous les jours à peu près. Donc j'ai des choix que j'ai pas envie de reconsidérer, parce que vraiment ça m'éclate. Et puis ça me permet de réviser Magic pas mal, parce que je fais beaucoup de choses sur des points de règles. Donc et des choses qui sont pas toujours forcément claires pour moi, ça me permet de les bosser pour faire une vidéo et essayer de les expliquer. Et j'ai la chance d'avoir assez de temps sur ma pause de midi pour pouvoir le faire dans mon travail en ce moment. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est quand même pas mal de boulot pour le niveau de production que je souhaite avoir en ce moment, quoi.
Ok, bon du coup on peut te retrouver sur YouTube, TikTok, Instagram aussi peut-être ?
Non, malheureusement, Instagram, Facebook, Twitter, j'ai créé des comptes et j'ai laissé tomber, c'est déjà beaucoup YouTube et TikTok.
YouTube et TikTok, vous pouvez retrouver Passion Carton en format short ou en format long.
Ouais, les formats longs, c'est vraiment ce qui nous intéresse le plus, en fait, c'est là où on peut vraiment rentrer dans les détails, que ce soit sur la théorie du jeu avec Nico, sur l'analyse, ou alors moi je fais des vidéos un peu plus d'actu tout seul devant ma cam, sur les dernières évolutions du jeu, sur les dernières évolutions du nombre de decks aussi, je sais pas si t'as vu cette vidéo-là, où on voit que vraiment le format Commander est en train d'exploser, en train de devenir le premier au monde, puis on voit aussi que Wizards prend en compte le fait que le Commander soit loin devant les autres désormais, et se met à penser son jeu autour de ça, quoi.
Mmh. Ouais, forcément, ça touche le grand public. Bon, on va se lancer un peu dans notre sujet. C'est un sujet qui va opposer, plus ou moins, carte quality et synergie. Avant vraiment de les mettre face à face, c'est quoi la carte quality et c'est quoi la synergie?
Alors, parlons français, on va dire, on peut opposer des cartes qui sont individuellement très fortes, parce qu'en elles-mêmes, elles ont besoin de rien d'autre pour générer beaucoup de pioches ou pour éliminer beaucoup de menaces adverses. Et d'un autre côté, les cartes synergiques, ça va être des cartes qui seules, évidemment, ne font rien. Mais en fait, quand tu vas les additionner avec d'autres cartes synergiques, finalement, elles vont produire quelque chose qui est plus intéressant que la somme de chacune d'entre elles. Et donc, dans chaque deck, on doit faire des choix. Il y a des espaces où on va vraiment essayer de développer des synergies avec des petites cartes qui font rien seules. Et puis, il y a d'autres espaces où on va devoir se reposer sur des cartes qui sont individuellement fortes, parce que malheureusement, nos synergies ne suffiront pas à boucher ces trous-là, quoi.
Mmh. Bon, si on devait prendre des exemples, moi je dirais Rhystic Study, et en face on mettrait Saison de Dédoublement.
Pour moi, Rhystic Study, c'est clairement l'exemple de la carte qui est individuellement forte, puisqu'elle a besoin de rien d'autre pour fonctionner, même si évidemment tout le monde peut décider de payer et elle fonctionne plus du tout, mais c'est un bon exemple de carte individuellement très très forte, alors que à côté de ça, on va... Par exemple, si tu as un deck guerrier, et ben tu vas jouer une pièce plus synergique qui va dire à chaque fois que tu as une créature qui met des blessures, tu vas piocher une carte. Là, ça va être une carte plus synergique qui fait rien toute seule. Mais en fait, si tu as une armée de guerriers, elle va te faire piocher même plus qu'une Rhystic Study, quoi.
Intuitivement, sans me lancer dans une grande réflexion, c'est que la carte quality, elle sera meilleure de manière générale parce qu'elle est plus adaptative. Elle est, comment dire... en toutes circonstances, elle va produire ce qu'elle veut faire. Bon, par contre, quand j'approfondis plus ma réflexion, souvent la carte quality, elle va t'amener et te donner des ressources pour aller jusqu'à la victoire, mais ça sera rarement un élément de victoire. Souvent, quand on voit les gens gagner, ça va être grâce à des synergies.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. En général, pour gagner, on doit combiner des choses. Le contre-exemple ne fonctionne même pas, c'est-à-dire que par exemple, un Exsanguinate ou un Tourment de Grêle de Feu, on a l'impression que comme ça, c'est des cartes qui, à elles seules, peuvent gagner la partie, mais en fait, non. Il faut avoir généré beaucoup de mana, donc en fait, c'est déjà une forme de synergie à mettre en place. À générer beaucoup de mana, investir dans ses sorts à X pour finir la table. Donc, en général, il n'y a pas vraiment de cartes qui gagnent la partie toute seule, quoi. Alors après, si, on peut peut-être dire un combo à deux cartes, ça s'approche un peu de ça, quoi. Mais encore une fois, il faut deux cartes, c'est déjà un minimum de synergie. T'as des cartes qui, à elles toutes seules, peuvent générer une victoire au bout du compte. Par exemple, je pense à la nouvelle Italie qui peut devenir une 11-11 infect, en gros. En soi, c'est une carte qui, à elle toute seule, peut gagner la partie. Mais bon, évidemment, il va falloir éliminer les bloqueurs, il va falloir la protéger. Donc, encore une fois, il faut un minimum de synergie pour gagner. Mais en effet, la carte quality, c'est des cartes surtout de rampe, de pioche et d'antibête. C'est plutôt à ça qu'on pense quand on pense aux cartes individuellement les plus fortes.
J'ai effectivement du mal à considérer des cartes comme Tourment de Graal de Feu, comme... des cartes, des CQ, des cartes quality, parce que je ne leur trouve pas cette notion justement d'adaptabilité. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas bonnes en toutes circonstances, elles sont bonnes à un seul moment, c'est-à-dire en fin de partie, quand tu peux la hardcast avec un X qui est très très élevé, et au-delà de ce tempo de partie, voilà, si je devais faire une hiérarchie des cartes intéressantes individuellement, je pense qu'elles seraient même pas dans le top 30. C'est-à-dire que c'est pas une carte que t'as envie d'avoir dans ta main de départ, c'est pas une carte que t'as envie d'avoir au tour 4, c'est pas une carte que t'as envie d'avoir nécessairement au tour 5 ni 6, mais sûrement après, quoi. Donc je trouve pas vraiment cet intérêt-là, alors que des cartes type anneau unique, ça va te donner la protection... ça va te donner protection contre les attaquants, ça va te donner un tour de répit, et derrière, ça va pouvoir te faire piocher. Donc, que tu sois en avant, en arrière, à partir du moment où tu peux casser la carte, tu vas forcément considérer la jouer.
Ouais, tout à fait. Mais ça, c'est une grille d'analyse intéressante qu'utilisent les joueurs de draft. Qu'est-ce que ça fait quand tu perds? Qu'est-ce que ça fait quand tu gagnes? Qu'est-ce que ça fait quand tu es en parité? En effet, l'anneau unique, tu es toujours, toujours content de le piocher, pas le tourment de grêle de feu, quoi.
Et quand on regarde de l'autre côté, quand on parle des synergies, comme je disais, c'est quelque chose qui est souvent plus fragile, parce que, bon, en tout cas, quand il s'agit de synergies entre permanents, à partir du moment où il manque un magnon de la chaîne, bah, forcément, la synergie n'est plus là, donc... l'impact qu'on voulait être démultiplié l'est plus. Ça capitalise aussi sur le long terme, donc voilà, ça a beaucoup plus d'angle mort finalement.
Ouais, et puis c'est des cartes qui souvent, comme elles vont rien faire seules, souvent tu vas les piocher, tu vas être un petit peu déçu, mais alors c'est là tout le défi, là on parle un peu de façon abstraite, mais en fait si tu arrives à avoir des pièces de synergie qui, en plus de ça, servent à autre chose, c'est-à-dire par exemple dans ton deck lien de vie, t'as besoin de gagner des vies pour tes synergies, mais que c'est tes sorts d'anti-bêtes qui te font gagner des points de vie, ah là tout de suite ça devient plus intéressant. Et là, comme le niveau minimum de la carte, ça reste un anti-bête, et qu'en plus, t'as une plus-value par rapport à tes synergies, là je trouve que c'est une carte dans ton deck lien de vie qui devient meilleure que le meilleur des anti-bêtes pris individuellement, quoi.
Oui, et comme j'ai eu l'occasion d'en parler dans plusieurs vidéos et aussi dans plusieurs podcasts, en fait, c'est des cartes qui vont avoir double rôle. Donc, je vais prendre l'exemple que j'aime beaucoup prendre, c'est l'elfe de l'Anowar, le Dork Elf. En fait, il va servir de rampe tour 1, donc il a son rôle, son utilité, on va la mettre dans la catégorie des cartes de rampe dans notre deck. Et derrière, si en fait ton deck c'est un deck elf, tu vas profiter de son type pour alimenter d'autres synergies. Donc en fait, il a cette double casquette, ce qui fait que virtuellement, bon, c'est du théorie craft un peu poussé, mais virtuellement, tu économises une slot dans ton deck.
Mais complètement, il faut vraiment voir les choses comme ça, c'est-à-dire que 100 cartes, ça paraît beaucoup, mais en fait c'est très peu, déjà quand t'enlèves une petite quarantaine de terrains, en fait tu te retrouves très vite à l'étroit, et en fait, pour moi, un très bon deck, c'est-à-dire un deck bien synergique, il fait porter plusieurs casquettes à chacune de ses cartes, quoi, au maximum.
Ouais. Et voire même dans les stratégies landfall ou land, tout simplement, ça fait carrément passer la mana base dans la catégorie des cartes synergiques. Et c'est aussi pour ça que c'est aussi fort.
Bah exactement, pour moi, c'est landfall, c'est la meilleure stratégie, à mon avis, après combo. Et tout simplement, parce que comme tu viens de le dire, t'es... 15 sorts de rampe et tes 40 terrains vont t'aider. Puis en plus, en commandeur, on a tendance à pas jouer des sorts qui détruisent tous les terrains. Donc en plus, tu profites du contrat social, quoi.
Donc finalement, comment on peut mettre l'un face à l'autre? Parce qu'on se doute bien que la réponse va être consensuelle, mais comment on peut pousser un peu plus l'analyse? Comment on essaye de jouer les deux, quoi?
Alors, moi, j'essaie vraiment de jouer en priori les synergies, parce que je pense que c'est plus puissant en définitive. Je vais prendre un petit exemple footballistique. D'un côté, tu as le Real Madrid des années 2000 qu'on appelait les Galactiques, où ils avaient recruté le meilleur buteur de l'époque, le Brésilien Ronaldo, le meilleur meneur Zizou, le joueur le plus médiatique Beckham. Et en fait, ils n'ont pas gagné grand-chose. Ils avaient l'effectif le plus clinquant qu'on a jamais vu. Et ils ont dépensé des centaines de millions, mais derrière, ils n'ont pas gagné énorme. Alors que d'un autre côté, tu as Barcelone, le Barça de 2008-2009, qui a tout remporté, qui est considéré comme étant peut-être la meilleure équipe de foot qui a jamais pratiqué ce sport, alors que, bon, ils avaient quelques stars achetées avec des millions aussi, mais ils avaient aussi beaucoup de petits Espagnols qui sortaient de leur centre de formation, et en fait, ils avaient un point commun, ils avaient tous appris à jouer de la même manière. Tout en jeu de passe, tout en collectif, et c'est avec ça, avec des minots qui sortaient de leur club de formation, qu'ils ont tout remporté. Et en fait, je vois un petit peu ça aussi dans mes decks, c'est-à-dire que, oui, je peux empiler des cartes qui auraient leur place dans un deck CEDH pour construire mon package de rampe, mon package de pioche, mon package d'anti-bête. Mais en fait, je vais toujours préférer mettre en place des synergies parce que, en définitive, sur une longue partie de commander sur 10 tours, mais ça va avoir un impact bien plus important qu'un staples que j'ai mis au pif, quoi.
D'accord. Moi, les staples, là, je vais partir un peu plus d'un côté, je vais dire moral, voilà. J'ai un peu du mal, parce qu'effectivement, ce sont des cartes qui sont autonomes, donc je pense encore une fois à Rhythmic Studies, c'est un sujet que j'ai très largement abordé, je suis désolé de vous barber avec ça, mais moi j'appelle ça les petites roulettes, parce que je trouve que c'est des cartes qui produisent du card advantage ou de la value très très importante un peu facilement. Cependant, je trouve que ça peut devenir des cartes intéressantes dans des stratégies qui peinent à exister. Je pense que voilà, tu veux jouer ton tribal un peu exotique qui est très très mal supporté, c'est-à-dire que bah, dans la tribu, il y a très peu de piocheurs, ou il y a très peu de cartes qui font land, bah, tu peux t'autoriser effectivement à jouer des staples, parce que du coup, ta mécanique derrière peut devenir viable grâce à ça.
Bien sûr, bah, je partage complètement ça, mais je dirais même que en fait, t'as pas trop le choix. C'est-à-dire que tu vas être obligé à un moment de mettre des staples à un endroit de ton deck où il galère, parce que sinon tu vas pas pouvoir faire la course avec les autres decks en face qui eux sont pleins de staples de partout. Mais par contre, si toi t'as 80% de synergie et 20% de staples pour boucher les trous dans la raquette, bah tu vas éclater les decks qui ont que des staples quoi. Je parle en casu, hein, je parle pas du tout en CEDH.
Oui, oui, bien entendu. Tu vois, en ce moment, j'essaye un peu de boubouter autour de Zabaz, le commandant modularité. Il est dans les couleurs brosse. Quand bien même le jeu tourne beaucoup autour des artefacts, en réalité, il y a un gros problème de pioche. Tout simplement parce qu'il profite pas des piocheurs en bleu qui tournent autour des artefacts, ces choses-là. Et donc, du coup, il peine à comment dire, faire tourner le moteur, quoi. Donc, bah, forcément, je commence à réfléchir à inclure des staples pour justement pouvoir apporter ce qui manque clairement à la bicolorité.
Ouais, mais c'est pas une honte, hein. Enfin, y a pas de souci, on a le droit de jouer les staples qu'on veut. Je pense que, par exemple, t'as un deck tribal elf, bah, tu vas avoir du mal à trouver des anti-bêtes qui sont synergiques. Donc, tu vas jouer réveiller la bête. Mais c'est normal, quoi. T'as pas le choix d'un côté en attendant qu'ils développent, qu'ils éditent des nouvelles cartes qui peuvent venir boucher ce trou-là. Et on voit qu'ils font beaucoup ce genre d'effort-là, en fait, de nous proposer des alternatives aux staples plus synergiques. Mais en attendant, si tu les as pas, tu les as pas. Et il faut bien que ton deck y tourne, hein, donc c'est normal d'en avoir aussi. Mais d'un autre côté, tu vois, par exemple, la dîme étouffante Smothering Tithe, bah, pourquoi pas la jouer dans un deck jeton, tu vois. Parce que, en fait, c'est synergique. En plus d'être un staple, c'est synergique, donc... Moi, je m'autorise à jouer cette carte sans souci si ça rentre dans le thème de mon deck, en fait.
Quoi penser des decks un peu pile de staples ?
Alors, c'est un style de deck que j'ai construit moi-même. Donc, j'avais construit un deck Garce. Donc, Garce, c'est un commandant 5 couleurs. Et quand tu l'engages, il peut te faire 5 sorts différents, en fait. C'est comme si tu mettais un sort en main. Donc, tu as un anti-bête, un anti-enchantement, un piocheur AX, un sort de récursion, et évidemment t'as le Black Lotus. Et donc j'ai décidé d'épouser vraiment ce côté très good stuff. C'était mon deck Real Madrid, j'appelais comme ça, puisque bah, déjà il peut te faire un bon sort de chaque truc, et puis derrière je mettais Rhystic Study, Smothering Tithe, toutes les meilleures créatures possibles, genre Ancêtre Gargaroth, Ange de Bataille de Tyr, mais il n'y avait pas trop de synergie. Mes seules synergies, c'était d'avoir des cartes qui donnaient célérité, qui permettaient à Garce de faire sa capacité plus vite, qui permettaient à mes créatures de taper plus vite. Et en fait, je me suis rendu compte que, d'un côté, je kiffais ce deck parce que t'éteins ton cerveau, t'as pas du tout besoin de réfléchir. Toutes les cartes que tu pioches, t'es là, waouh, ouais, c'est trop fort, waouh, ouais, c'est trop fort. Tu la joues, t'as besoin de mettre en place aucun séquençage, aucune synergie. D'un autre côté, je me faisais 3v1, mais tout le temps, quoi. Parce que dès que je jouais une carte, c'était une carte qui était top 10 de sa catégorie. Puisque j'avais accès aux 5 couleurs, donc je jouais que des cartes incroyablement fortes. Et en fait, c'est un deck qui gagnait pas beaucoup, parce que bah, il développait pas de grosses synergies. Et puis de toute façon, il avait même pas le temps de se mettre si bien que ça, parce que bah, quand ton sort de rampe, c'est Dockside Distortionist, et que ton sort de pioche, c'est Rhystic Study, bah, les gens, ils te tapent dessus. Alors que peut-être à côté, il y a un deck dragon qui est en train de développer des choses beaucoup plus déterminantes pour mettre fin à la partie, mais c'est toi qui fais peur avec tes grosses cartes.
Ouais, je comprends. Ouais. Bon, là, tel que tu m'en parles, c'est un deck qui peut, par exemple, avoir du mal à répondre à des cartes comme des Vras, peut-être, ou des trucs comme ça.
Pas particulièrement, non, parce qu'il y avait bah, tous les meilleurs contresorts, Teferi's Protection, tout ça. C'est juste que c'était très très facile pour mes adversaires de souligner le fait que j'avais des pièces particulièrement pétées sur mon champ de bataille, et donc c'était vraiment facile pour mes adversaires de me mettre une cible sur le dos. Et tu sais, t'as beau te défendre, bah ouais, mais t'as Smothering Tithe sur le board, donc en fait t'as rien à dire, tout ce que tu pourras dire c'est oublier immédiatement, parce que sinon tu vas gagner avec ta Smothering Tithe en fait.
D'accord, donc politiquement, finalement, bah le card quality c'est bien, mais bon, tu prends quand même une target.
Bah après c'était moi qui avais fait ce choix de faire un deck avec que des cartes individuellement très flashy, Et voilà, et puis je pense que à l'autre échelle du spectre, tu prends un deck CEDH, bah en fait, le format CEDH prouve aussi d'une certaine manière que tu peux juste, ouais, je veux pas insulter, mais empiler des cartes, des staples en fait, et faire un deck plus fort qu'un deck qui essaie juste d'être synergique gentiment. Après, voilà, les decks CEDH sont aussi extrêmement pensés autour des synergies, et leur but c'est d'arriver à faire synergiser justement les cartes qui ont le plus haut plafond individuellement.
Je voulais te parler d'une carte, je voulais que tu réagisses un peu à une carte, parce que pour moi c'est vraiment la signature de Card Quality, c'est le nouvel enchantement « Les problèmes viennent par deux ».
Alors je me permets de le chercher vite fait.
Alors, je vais me permettre d'expliquer, de lire la carte tout simplement. « Les problèmes viennent par deux » est un enchantement à 4, dont 2 mana blancs. Il dit que si un adversaire devait commencer un tour supplémentaire, ce joueur passe le tour à la place. Mais il y a une grosse... autre ligne de texte qui dit que à chaque fois qu'un adversaire vous attaque avec au moins deux créatures, ou qu'il pioche sa deuxième carte à chaque tour, ou qu'il lance son deuxième sort à chaque tour, vous piochez une carte. En gros, tu pioches un peu pour rien. On a pu lire vachement de vannes sur les réseaux, disant bon bah tu tousses, tu pioches une carte, tu te décapsules une bière, tu pioches une carte, voilà.
C'est une carte sur laquelle j'ai du mal à avoir un avis très arrêté parce que je l'ai jamais joué et je l'ai jamais affronté, mais j'avoue que à première vue, ça a l'air n'importe quoi. On dirait que tu pioches vraiment tout le temps quoi. Après c'est aussi c'est un peu comme Risk Study, c'est une carte si les adversaires font attention tu pioches jamais quoi. Donc après c'est aussi aux adversaires d'être responsables et de bien dire bah écoutez désolé ce tour-ci tu vas pas jouer ton caillou et ton commandant, tu vas juste jouer ton commandant, mais au moins tu vas pas faire piocher l'adversaire sinon il a gagné quoi. Donc après il faut aussi que les gens ils se retiennent un petit peu quand ils voient une telle carte sur la table quoi, parce que d'un autre côté c'est une carte qui fait rien si les adversaires décident d'y faire attention.
D'accord, alors je suis pas tout à fait d'accord, ne serait-ce que sur le postulat sur Study, c'est-à-dire qu'il y a plein de moments où t'es mana short et que bah, pour jouer ton commandant, faut que tu le payes plus vite que tu payes la taxe, donc bon, bah, en fait, tu es littéralement un mana près et t'as besoin aussi d'avancer dans ta stratégie, donc tu vas faire piocher. Enfin, comment dire, je trouve ça pas si évident de dire si les gens font attention, le mec qui a Study pioche pas, parce que des fois il suffit pas de faire attention quoi. Tu vas pas vraiment sous-jouer pour tourner autour de Study. Si tu peux payer, tu payes, a priori. Mais je trouve que c'est pas si évident que ça. Et là, de la même façon, je trouve que c'est pas si évident que ça. Parce que des lignes comme à chaque fois qu'un adversaire bon, vous attaque avec au moins deux créatures, ça effectivement tu peux tourner autour plutôt facilement. Mais des trucs du type qu'il pioche sa deuxième carte à chaque tour, ouah, ça commence à être compliqué de tourner autour. C'est-à-dire que tu vas pas te dire ah bah je vais pas piocher une carte pour que l'autre ne pioche pas. Ça paraît un peu bizarre. Et de la même façon, bah lancer ton deuxième sort, encore une fois, tu as besoin d'avancer dans ta stratégie, tu vois, donc ça impliquera nécessairement souvent de jouer deux sorts. Cependant, contrairement à ce que je dis, je trouve la carte beaucoup moins impactante en early que peut l'être ce que tu dis. Elle va être plus impactante en mid-end game que ce que tu dis, quoi.
Ah, clairement, c'est une carte qui fait rien en début de partie. Hein. Mais après, bah, quand tu as un sort de pioche qui pioche une carte, tu peux décider de le faire à un autre moment. Quand le deuxième sort que tu voulais faire, c'est un éphémère, tu peux le faire à un autre moment que ton tour. Bon, il y a quand même des moyens de s'adapter, quoi. Je pense qu'il ne faut pas non plus laisser le joueur avec cette pièce-là. Profiter de tous les joueurs qui font « Bon, bah tant pis, j'ai pas le choix si je veux avancer moi. » Penser à ma tronche et avancer moi. Mais en fait, on n'est pas en un contre un, quoi. C'est toute la table après qui doit affronter le joueur de Trouble in Pairs ou de Risk Study. Et du coup... bah, je trouve que c'est un type de design un peu embêtant quand même, parce que ça veut dire qu'il y a des triggers tout le temps, ça veut dire qu'on va oublier plein de triggers, ça veut dire qu'on va devoir revenir en arrière, ah mince j'avais oublié, je devais piocher, ah en fait j'ai pioché ça, ça change tout et tout. Du coup je trouve que c'est des cartes qui mènent à des parties pas forcément très agréables à jouer, en tout cas pas avec des nouveaux joueurs, ça c'est sûr. Mais en tout cas la carte a l'air super forte, et je crois qu'elle est aux alentours de 20€ en ce moment. Et en fait, ça m'étonne pas qu'elle ne descendrait pas dans le futur, en fait.
Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. J'y avais même pas trop pensé, finalement. Effectivement, ça va trigger de très nombreuses fois. Bon, comme tu dis, si ce n'est que là, au moins, ça a le bon goût de « est-ce que tu payes un ?» Tu vois, rien que poser la question, ça je trouve que ça casse le rythme, alors que là, bon, bah, t'es vigilant, tu vois que le mec, il a fait deux trucs qui te font piocher, bah, tu pioches, t'as pas forcément besoin d'intervenir verbalement, en tout cas, pas d'interrompre. Donc,
ouais.
Voilà, je trouve ça plus intéressant, malgré que mon point de vue global sur la carte, c'est que c'est un design feignant.
Mais c'est quand même moins casse-pied que... C'est quand même moins casse-pied que Rissik se dit par rapport tu payes 1, tu payes 1, tu payes 1. Mais d'un autre côté, t'as pas le choix. Tu dois piocher une carte quand un adversaire joue son deuxième sort ou quoi que ce soit. Et du coup, si t'as oublié, mais en fait, tu dois le faire. Et en fait, peut-être que ça change tout et. et voilà. Mais.
J'entends bien. Encore...
Enfin, pour terminer là-dessus, je pense que il faut pas du tout laisser les joueurs de ces cartes-là bénéficier des petites pioches résiduelles à chaque rotation, quoi. Même si c'est que. Ah bah j'ai pas le choix, faut que je joue mon commandant, sinon je fais rien. Mais en fait, fais rien en fait. En fait, tu fais pas rien, tu le prives de cartes, tu prives le joueur qui est devant de cartes. Et en fait, il faut que la table l'affronte, quoi. Et il faut pas, en pensant à ton petit sort personnel, que tu handicapes encore davantage la table en continuant à alimenter le joueur de ces pièces-là qui va se gaver. Et puis on sait très bien, enfin, on l'a tous vécu, on le voit, il gagne derrière, il gagne. Il a plus de cartes que les trois en phase réunies. Il gagne quoi, même si c'est qu'une petite carte par-ci par-là à la marge, à mon avis, faut être rigoureux à ce niveau-là.
Ouais, je suis d'accord avec toi, hein. Globalement, c'est des cartes qui ont un impact lourd. Bon, pour ma part, je vais pas le cacher, hein. Je suis plutôt team synergie, tout simplement parce que je trouve ça plus exotique, hein, tout simplement. J'aime beaucoup monter des synergies, des fois farfelues, j'aime beaucoup en découvrir, j'aime beaucoup quand quelqu'un se pose à la table et me présente un deck synergique, soit dans un thème que je connais mal ou peu, qui me sort quelque chose pas forcément de très exotique, hein. Ça peut être quelque chose comme de très basique comme marqueur ou token, tu vois, mais quand il essaye de fabriquer du jeu, plutôt que juste accumuler des cartes et faire juste une pile de bonnes cartes qui n'a pas demandé, selon moi, un grand effort de deck building.
Bah, c'est sûr que c'est beaucoup plus intéressant de travailler les synergies. Après, ça dépend de ta méta aussi. C'est-à-dire que moi, une époque, dans mon groupe, on avait tous Mana Crypt, Ancienne Tombe, Lotus Joyer et tous les tutors. Et ça veut dire que tous mes decks, ils commençaient de la même manière. C'est-à-dire que je mettais 5 tutors, je mettais 5 pièces de fast mana, et en fait derrière ça bouleversait toute la construction de mon deck, parce que pourquoi je vais aller m'embêter à construire des synergies un peu bizarres pour mettre des plus en plus 1 sur mes créatures et attaquer ou je sais pas quoi, alors que j'ai déjà 5 tutors, que je peux en rajouter 5 autres et jouer des combos à 2 cartes en fait. Du coup ça dépend complètement de ta méta quoi, et dans une méta CEDH, ou en tout cas qui s'approche du CEDH, des choses que les gens vont appeler 8-9, et bah là en fait je comprends que tu joues pas tant que ça les synergies. Parce qu'en fait, t'as intérêt d'avoir 10 contre-sorts, 10 anti-bêtes, les meilleurs piocheurs pour pouvoir tenir la route face à tes adversaires et des tutors pour aller chercher tes combos. Mais après, c'est vraiment un autre style de commandeur que celui dont on est en train de parler, à mon avis, qui est le commandeur plus casu, où en effet, tu pars d'une idée et tu essaies de réaliser ton idée à travers les synergies de ton deck, et c'est absolument pas en empilant des staples que tu vas avoir ce plaisir-là, quoi.
Ouais, moi chez moi j'appelle ça le beau jeu, hein, tout simplement, empiler des synergies, je trouve ça le beau jeu. Après on est vraiment, j'ai l'impression que la communauté Magic en général, on est peut-être un peu scindé en deux vis-à-vis de ça, c'est-à-dire que il va y avoir les gens comme moi, comme nous, qui vont chercher à voir ce qu'on appelle le beau jeu, donc c'est-à-dire vraiment essayer d'empiler des synergies qui peuvent retourner la game. Plutôt que jouer... Et en face, il va y avoir la team « Ouais, mais moi, je joue des bonnes cartes. Et ce que tu me proposes, c'est de la crap. » Et voilà, ils vont être plutôt dans team card quality. T'as écrit récemment un article, du coup, sur le mana positif, entre autres aussi, qui traitait aussi des tutors. T'en parlais un peu plus tôt. En termes de game design, qu'est-ce que ces trucs-là apportent au format, finalement? Parce que typiquement, c'est vraiment du card quality, hein, Sol Ring, Mana Crypt, ces choses-là.
Alors, à part leur présence, je ne crois pas qu'ils apportent quoi que ce soit d'autre en termes de game design. C'est pas des cartes qui ont été pensées du tout pour le commandeur. En fait, ce qui est un peu le symbole de ça, c'est l'anneau solaire. L'anneau solaire qui, il y a 20 ans, était une carte qui coûtait bien cher. Un peu dans l'esprit des Mana Crypt et tout. Et en fait... quand le Commander a commencé à bien prendre après sa création par des arbitres dans les années 2010, environ 5 ans après, Wizards a décidé d'empoêter le pas et de produire des decks Commander. Et à cette occasion-là, ils ont décidé, à mon avis c'est une grande erreur de leur part, d'inclure l'anneau solaire dans tous les decks Commander. Ce qui s'est passé, c'est que tous les decks Commander préconstruits avaient un anneau solaire qui était une carte qui valait cher, que les gens ne jouaient pas tant que ça en Commander rapport à son prix, un peu comme la Mana Crypt aujourd'hui. Et en fait, ça a complètement banalisé l'anneau solaire qui aujourd'hui coûte 2 centimes. Et en fait, ça a complètement ouvert la porte au fast mana à mon avis. Donc c'est-à-dire des artefacts qui vont générer plus de mana que ce qu'ils ont coûté en arrivant en jeu. Et résultat, ça a un peu dit aux gens, bon bah en fait c'est ok de jouer ces cartes-là. C'est ok de les jouer en commander, le commander qui est un format casu, dont la banlist exclut les cartes qui homogénisent trop le format, qui offrent un avantage trop important, qui empêchent les autres joueurs de rattraper celui qui les joue et tout. Et en fait, c'est que des critères qui correspondent à 100% à anneau solaire ou au fast mana. Et en fait, je pense que ces cartes, ce qu'elles ont apporté, c'est qu'elles ont apporté un deuxième esprit, c'est-à-dire l'esprit CEDH, qui dit « Ok, bah, on rentre à fond dans cette logique-là, on ne joue que les meilleures cartes, donc on joue toutes ces cartes-là, et tout le monde les a, et tout le monde est sur un pied d'égalité. » Et en fait, à mon avis, ça apporte quand même quelque chose de très intéressant, parce que le CEDH, je ne suis pas du tout un spécialiste, mais c'est une méta beaucoup plus resserrée, où il faut beaucoup plus justement connaître la méta, connaître les decks des adversaires, connaître les réponses aux façons de gagner très classiques que tu vas voir à chaque fois. Et c'est un format qui a un intérêt très poussé, franchement. Le problème, c'est plutôt ce que ça a provoqué au niveau casu, c'est-à-dire au niveau où on joue nous, qui est plus tranquille, où on risque d'affronter des joueurs débutants, ou voilà, qui n'ont pas forcément le temps et l'argent comme nous à dépenser dans leur passion et qui veulent juste faire des petites parties. Dans ces cas-là, je pense que c'est des cartes qui font passer des mauvaises parties, en fait, tout simplement. Que ça soit parce que quelqu'un est irrattrapable dès le début, et en fait, c'est déjà assez long de se retrouver pour faire une partie de commander et de mélanger ses cartes et de t'installer. Et en fait, au bout de 3 cartes, t'as quelqu'un qui a gagné parce qu'il a tutor son combo, parce qu'il avait Sol Ring en main de départ. C'est pas intéressant. Ou alors, ce que ça provoque très souvent aussi, c'est un 3 contre 1. 3 contre 1 jusqu'à ce que le joueur de Sol Ring ou de je sais pas quoi, de fast mana tour 1 soit éliminé. Et ensuite, on peut continuer la partie à 3. Mais le commander à 3 est beaucoup, beaucoup moins intéressant que le commander à 4. Et le fait qu'il y ait des tutors à tire-larigot accentue encore le problème. Enfin, je me souviens, moi je suis vraiment passé par cette phase-là. À mon avis, c'est aussi une histoire de... c'est une histoire en fait. Quand tu commences le commander, t'en as plein les yeux, t'es là, ouais, tout est synergique et tout, c'est incroyable. Je peux mettre des marqueurs puissants sur mon commandant, attaquer, mettre 21 dégâts et tout, ouais, c'est incroyable. Ensuite, tu découvres qu'il y a des cartes meilleures, tu découvres le CEDH, tu commences à empiler des staples, empiler des tutors, du fast mana, tu découvres les combos, tu découvres qu'en fait t'as pas besoin de te faire chier à mettre 3 fois 40 blessures et que tu peux juste jouer une carte à 2 mana, une carte à 2 mana et t'as gagné. Et du coup voilà, là tu rentres vraiment dans ce niveau de puissance là. Puis ensuite, je pense qu'après quelques milliers de parties, nous c'est ce qui est arrivé pour nous en tout cas, on se lasse un peu de cette répétition, de cette méta très resserrée, et on a envie de retrouver nos émois du début du Commander, où on avait des étoiles dans les yeux, et donc là on a décidé dans mon groupe en tout cas de se passer de ces cartes là, pour avoir un deck building beaucoup plus exigeant, et des façons de gagner moins orientées autour des combos, puisqu'en fait c'est ce que tout le monde faisait, et on s'était beaucoup trop approché du CEDH, alors que c'était pas forcément ce qu'on recherchait nous.
Ouais, ça me parle beaucoup ce que tu dis, typiquement je suis... vachement moins dans l'envie de gagner que de proposer en fait du gameplay. C'est quand je pose un deck sur la table, j'ai envie de montrer, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette tribu toute pourrie, avec ce commandant qu'on connaît pas, cette mécanique qui est un peu obscure ou très peu jouée. Et j'ai envie de proposer du gameplay, la victoire, c'est-à-dire que elle arrive en second derrière développer mon plan de jeu. C'est-à-dire que pour moi, une bonne partie, enfin moi je vais vivre une bonne partie dans une partie dans laquelle où j'ai réussi à amener mon jeu à faire ce qu'il voulait. Si j'y perds, bon ben fait chier, mais et si j'y gagne, c'est encore mieux. Mais voilà, ça va être au second plan derrière cet objectif-là. Tu vois, typiquement, mettre le dernier point de vie d'une partie où j'ai rien pu faire, ça m'intéresse pas vraiment.
Ah bah c'est bien dit, ouais. Mais c'est exactement le but du commandeur à mon avis, enfin c'est pas à mon avis, c'est le but du commandeur, c'est justement de kiffer en fait, de s'amuser à 100%. Alors après, moi comme je disais, tu demandais Enfin, tu disais que c'était plus dans le camp synergie que dans le camp card quality. À mon avis, il n'y a pas vraiment deux camps. C'est juste, c'est qu'est-ce que tu recherches à un moment donné dans ton histoire de joueur. Et en fait, quand tu commences à découvrir que, avec de la card quality, tu peux faire des trucs sans comparaison avec ce que tu avais l'habitude de faire, bah, c'est un vrai kiff aussi, en fait. Et ça devient un kiff aussi de métagamer tes adversaires par rapport aux combos à deux cartes que tu sais qu'ils ont dans leur deck, donc tu dois jouer autour et tout. Après, voilà, nous ce qu'on kiffe, c'est faire des trucs rigolos, c'est faire des trucs originaux, mais c'est peut-être aussi, on a ces envies-là parce qu'on a beaucoup de parties au compteur, quoi. Et moi je sais que c'est notamment en me mettant à jouer sur Xmage, donc c'est-à-dire un logiciel qui permet de jouer au commandeur à 4 très facilement en ligne, bah, du coup j'ai empilé des parties et des parties, mais des milliers de parties, genre peut-être 10 000 parties sur ce logiciel-là, et en fait, au bout de 10 000 parties, tu te lasses de voir Sol Ring. Ou alors Vampire Tutor pour Sol Ring Tour 1 ou des trucs comme ça. Voilà, c'est aussi pour ça que qu'avec mes potes on a changé notre façon de jouer et qu'avec Nico on a décidé d'écrire des articles en fait pour parler de notre façon de jouer parce qu'on trouve que c'est beaucoup plus intéressant et on a vraiment redécouvert le format de cette manière, quoi. Mais pour revenir sur le sujet du coup synergie card quality, donc je pense qu'en général dans n'importe quel deck tu dois faire des concessions, il y a des endroits où tu vas pas pouvoir mettre en place des synergies et tu vas devoir te baser sur des staples. Mais alors par contre il y a aussi des types de decks où tu vas pouvoir ne jouer que des cartes synergiques. Et je pense notamment à un deck que j'avais construit, c'est Mou, la mer pilleuse. Donc c'est un gobelin pour 6 en rouge vert. Quand il arrive en jeu, il fait 2 gobelins 1-1 qui sont rouge et vert. Et en fait, elle dit qu'à chaque fois que tu vas jouer un sort d'éphémère ou de rituel, tu peux engager 2 créatures qui partagent une couleur avec elle pour le copier une fois. Et en fait, le problème de ce deck, c'est que tout synergise. Parce qu'évidemment, tes sorts de contrôle sont sous la forme d'éphémères et de rituels, donc tu vas pouvoir les copier avec ton commandant, mais aussi ta rampe de terrain verte qui va chercher des terrains, donc en fait, tu vas copier ta rampe, tu vas jamais vraiment avoir à payer de taxes de commandant parce que tu auras toujours 1000 terrains. Même ta génération de jetons, c'est des rituels, donc tu peux les copier, ce qui va te donner plus de jetons pour copier davantage de sorts derrière, et tes finishers qui mettent des blessures directement dans la tête, pareil, c'est des éphémères et des rituels, donc tu vas pouvoir les copier, tu vas pouvoir t'en servir en tant qu'anti-bête, et en fait, bah, c'est un deck où tu joues pas de créatures, ou presque, et du coup, quoi que tu fasses, juste parce que tu joues à Magic, t'es récompensé par des trucs gratuits, sans avoir à travailler pour, donc tes sorts de jetons, c'est censé être un peu l'huile dans tes rouages pour lancer ta machine, ça devient tes finishers parce que tu les copies, tes sorts d'anti-bête qui mettent des blessures, ça devient des finishers, n'importe quel sort de rampe devient indépassable, donc c'est aussi une forme de finisher, donc voilà, tu peux même copier les sorts qui te disent défausser une carte, piocher deux cartes, tu le copies, bah t'as pas à redéfausser, tu repioches deux. Et en fait, c'est un deck que j'ai arrêté de jouer parce qu'il était juste trop fort, en fait, parce que bah t'as pas à faire de concessions, tout est synergique.
C'est ça qui est paradoxal, parce que finalement, c'est agréable à jouer parce que ton deck, il va te chier rarement à la gueule. Cependant, bah, la proposition de gameplay, on peut vite s'enlacer en tant que pilote du deck, parce que bon, bah ça manque un peu de challenge. Le deck est tellement supporté par tout et n'importe quoi dans le format que bah au final c'est même pas un effort de building, quoi.
Bah ouais, et puis surtout c'est pas un deck que tu peux jouer tout le temps contre n'importe qui, en fait. C'est à dire que j'ai des amis qui ont zéro deck qui peut faire la course contre ce deck là, quoi. Donc à part à dire ok je le sors de temps en temps quand on se dit allez on fait la grosse partie, voilà, j'ai pas vraiment d'intérêt de le construire et j'aime pas trop ces decks là parce qu'en général j'ai envie de jouer tous mes decks. Et j'ai déjà un deck comme ça qui est un peu trop fort, c'est un deck Edric, que je joue rarement parce qu'il est juste trop fort. Et du coup, bah, je le joue rarement et ça m'énerve, en fait. J'aime bien jouer mes decks et j'ai pas envie de marcher sur des œufs et de dire à tout le monde « Ok, est-ce qu'on peut sortir les gros decks pour que je fasse une partie avec mon deck Edric ?» Enfin voilà, je préfère des trucs un peu plus tranquilles, quoi.
Mm-hmm. Si on devait, entre guillemets, faire une synthèse de tout ce qu'on vient de dire, on a opposé card quality et synergie. Finalement, on se rend compte que, certes, ça peut être opposé, mais pas forcément.
Bah, en fait, en empilant des cartes ultra fortes, ton deck va pas être mauvais, ça c'est sûr. Mais le problème, c'est qu'il arrivera pas à dépasser la somme de ses pièces pour faire quelque chose de synergique plus déterminant. Il va être toujours fort, mais il va jamais être excellent. Comme peut l'être n'importe quel deck, en fait, même un deck jeton vert-blanc. Mais en fait, quand il commence à combiner un sort qui double les jetons, un gros sort de jetons et un sort qui renforce tous ses jetons, il va faire un truc tellement plus fort que qu'un empilement de staples juste de cartes bonnes individuellement sans rapport entre elles. Mais après, c'est vrai que le CEDH vient un peu prouver l'inverse d'une certaine manière, Mais eux, ils poussent vraiment le card quality au max, avec des cartes qui valent des centaines, voire des milliers d'euros. Et là, en effet, ce Real Madrid-là peut battre le Barcelone, pour l'exemple que je donnais tout à l'heure, mais parce que les cartes individuelles sont juste d'un autre monde, quoi. Et une d'entre elles va valoir aussi cher qu'un deck... Un deck casu traditionnel, quoi.
Cependant, finalement, le CEDH gagne très, 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 très souvent autour de la combo, qui est aussi la synergie poussée à l'extrême.
Et bah, tu vois, je me demande, quoi. Tout à l'heure, je donnais comme exemple, justement, dans la card quality, les combos. Parce qu'en fait, oui, c'est une synergie, mais c'est la synergie avec le plus petit dénominateur commun. C'est-à-dire, tu dois jouer la carte... Et tu dois jouer la deuxième carte. Mais c'est tout. C'est-à-dire que tu joues ton oracle de Tassa, sa capacité va sur la pile, tu joues ton petit sort pour vider ton deck, en deux ou trois manas, t'as gagné. Est-ce que ça demande vraiment de mettre en place une synergie? Moi, quand je pense à la synergie dans mes decks, je pense plutôt à des moyens de me servir de l'effet de mon commandant pour améliorer tout le reste de mon deck. Là, c'est vraiment le niveau zéro de la synergie, surtout que tu vas jouer 10 tutoires dans ton deck. Donc en fait, t'as juste à toucher 2 de ces 12 cartes, et c'est bon, t'as gagné, quoi. Donc en gros, c'est une synergie parce que, bravo, t'as pioché 2 de tes 12 cartes, tu as gagné. Donc, c'est pas non plus une synergie très synergique, quoi.
Eh ben, écoute, je pense qu'on a commencé à faire le tour de la question. Je te propose de passer en outro d'émission.
Ok.
Bon, si t'écoutes un peu le podcast, tu connais à peu près la question que je vais te poser.
Ouais, je n'avais pas du tout préparé ça.
Dommage. As-tu une œuvre culturelle à présenter aux auditeurs? Ça peut être un livre, un roman, un film, peu importe.
Alors c'est une œuvre qui n'a de culturel que le nom, mais je vais en parler parce que je l'ai acheté récemment. C'est Helldivers 2, donc un jeu de tir en coopération que je fais avec des potes. En soi, le jeu est intéressant dans le sens où il faut réussir à mettre en place des stratégies entre les différents membres de l'équipe et justement développer des synergies entre les différentes attaques qu'on a chacun choisies pour réussir à éradiquer le maximum d'aliens ou de robots sur les planètes qu'on visite. Et c'est un jeu qui est très intéressant pour son discours antimilitariste sur l'armée américaine, puisqu'on te présente comme des soldats de la démocratie, de la liberté, qui viennent libérer les planètes d'insectes en les arrosant de balles, en gros. Donc voilà, c'est un peu con, c'est très fun, et c'est un jeu que je recommande pour ceux qui ne le connaissent pas.
Ok, bah super, j'irai regarder ce que c'est, parce que je connais pas du tout non plus.
Bah écoute, si tu veux faire une petite partie.
Allez, ça roule.
On est au début encore.
Ça roule. Bah merci à toi d'être passé sur cet épisode, ça m'a fait très plaisir.
Bah merci, franchement ça me fait super plaisir de passer sur le pince-crâne, hein, depuis les années que j'écoute, c'est une consécration.
Ouais, on l'a pas dit, mais on a eu l'occasion de se rencontrer au Relique Commander Tour à Rennes, et du coup c'est cool, on a passé un bon moment ensemble.
Ouais, tout à fait, ouais, c'était cool de faire quelques parties ensemble, et puis juste l'événement en lui-même était très cool, je trouve que Relique, ils ont fait ça vraiment très très bien, j'ai hâte au prochain.
Ouais, c'était vraiment bien, et puis on les salue. D'ailleurs, tant que t'es là, j'aimerais aussi t'inviter, toi, Nico, et tes potes, à Commander l'Assemblée qui aura lieu à Auxerre cette année.
C'est à quelle époque?
C'est en juillet de cette année, fin juillet. On n'a pas lancé la com officiellement, mais bon, je peux teaser.
D'accord, bah écoute, avec plaisir, carrément.
Allez, super. Et ben merci aussi à vous, hein, aux auditeurs, d'avoir écouté l'émission jusqu'au bout. N'oublie pas, hein, si cet épisode vous a plu, vous pouvez le liker, vous abonner sur la plateforme de votre choix. Et même si vous avez des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à commenter ou venir m'interpeller sur le Discord de Magic c'est Chic. En attendant, je vous souhaite plein de bons top decks et pas trop de manades. C'était le Pince-Crâne. Salut.
Salut.